un podcast France Culture.
Mes amis, craignez l'atteinte de la richesse, la pauvreté à ses franchises, l'opulence à sa gêne. Voilà ce que Diderot écrit à la fin de sa vie en 1768 dans un essai intitulé « Regrets sur ma vieille robe de chambre ». Le philosophe s'y livre à une réflexion sur l'argent corrupteur. Lui qui a d'abord été un étudiant désargenté s'est beaucoup enrichi grâce à l'encyclopédie et au mécénat de Catherine II. Et le motif de l'argent traverse toute son œuvre de fiction. Pour parler de l'économie selon Denis Diderot, nous avons le plaisir d'accueillir en duplex de Toulouse Stéphane Pujol, professeur de littérature française à l'Université de Toulouse, directeur de l'équipe de recherche ELH, président de la société Diderot et directeur du numéro de la revue Recherche sur Diderot et sur l'encyclopédie consacrée à Diderot et l'argent. Également avec nous à distance, Marianne Albertan-Coppola, chercheuse au laboratoire Centre des sciences des littératures en langue française de l'Université Paris-Nanterre, autrice d'une thèse intitulée « Être pauvre au siècle des Lumières, représentation de la pauvreté dans la fiction romanesque du XVIIIe siècle », thèse soutenue en 2020. Une émission préparée par Léa Sabourin, Mathilde Tonfourcade, Aliette Ovine, Diane Devancet, Laurence Genepin et Margot Bolotny. Bonjour Stéphane Pujol et Marianne Albertan-Coppola.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, Stéphane Pujol, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à Diderot et l'argent ?
Écoutez, tout simplement parce que personne, ou très peu, je crois, à ma connaissance, ne s'y était intéressé auparavant. C'est pas une question qui est au centre de son œuvre. Et pourtant, il m'a semblé qu'elle travaillait la question de la représentation de l'argent, des richesses, toute son œuvre de fiction, comme dans une certaine mesure aussi, une partie de son œuvre philosophique.
Et c'était peut-être une occasion de parler de Diderot, dont la figure est peut-être souvent effacée. Passer Marianne Albertan-Coppola derrière celle de Voltaire et de Rousseau parmi les philosophes des Lumières ?
Alors, effacer, je ne pense pas qu'on puisse encore dire ça, mais c'est vrai que les œuvres de Diderot, par exemple pour un public scolaire, sont peut-être moins transparentes que celles de Rousseau, Voltaire, qu'on pourra donner à ses aimants à lire et qui se comprendront, même s'il y a des niveaux cachés que les herméneutes auront à découvrir. Chez Diderot, j'ai remarqué dans ma thèse consacrée à la pauvreté, où je me suis intéressée à plusieurs centaines de romans, qu'on retrouve rarement dans le reste du corpus la richesse des fictions diderotiennes, que cela soit au niveau de la construction de la narration, de l'importance du dialogue, de la portée philosophique, etc.
Et peut-être que si ces fictions sont insuffisamment parvenues jusqu'à nous, c'est parce qu'elles ont été découvertes fort tard. On reviendra sur ce point. Parlons d'abord un petit peu de la biographie de Diderot. Il naît en 1713, 2 ans avant la mort de Louis XIV, dans une famille de la petite bourgeoisie, Stéphane Pujol, donc dans un milieu relativement aisé.
Alors, un milieu relativement aisé, oui, c'est le tiers état dans toute sa splendeur, c'est-à-dire le monde des artisans. Il est fils d'un maître coutelier et d'une mère qui est également fille d'artisan. Donc, le père de Diderot a une certaine aura dans la ville de Langres où il naît. Il a une aura morale et pas seulement professionnel. Ce qui est intéressant, il faut le signaler, puisqu'on évoquait à l'instant Rousseau et Voltaire, c'est que à l'instar de Rousseau, il fait partie de ce milieu de la petite ou moyenne bourgeoisie. Donc c'est un écrivain qui n'a pas, qui va devenir écrivain, mais qui n'a pas au départ des moyens financiers considérables pour subvenir à ses besoins et qui connaît le monde du tiers-état, de la bourgeoisie et même de la paysannerie dans une certaine mesure.
Des moyens, il en aura d'autant moins quand il décide, contre l'avis de son père, de quitter les jésuites pour retrouver une femme, une lingère, Antoinette Champion, qu'il épousera plus tard. C'est une vie assez précaire qui commence alors pour lui, Stéphane Pujol ?
Oui, très précaire. Il a effectivement, là aussi, comme Rousseau, il va épouser une femme de toute petite condition, presque analphabète, en tout cas qui n'a aucun rapport, aucun lien avec les belles lettres. Et il va après avoir effectivement reçu la tonsure très jeune, hein, il se destinait en fait à une carrière de prêtre. Il a fallu un accident, si l'on veut, familial pour que ça ne se fasse pas. Il part à Paris pour faire des études. Son père l'aide autant qu'il le peut. Diderot va le harceler pour qu'il lui envoie régulièrement de l'argent. Il le fera en attendant en retour l'assurance d'études sérieuses et assidues. Diderot va entamer des études et va terminer des études. Il obtiendra le diplôme de maître et art de la Sorbonne, donc des études à la fois de théologie et de philosophie. Mais à la suite disons d'un désaccord avec son père, et notamment sur la question du mariage avec Antoinette Champion, le père va lui couper les vivres, et là il va devoir vivre vraiment d'expédient. Il va faire toutes sortes de petits métiers, pas les plus vils, loin de là, mais enfin une grande diversité d'expédients. Il va traduire des textes, il va être professeur de mathématiques, il va connaître des jours plus ou moins difficiles, et souvent assez difficiles, notamment entre les années 1735-1745, avant bien sûr que ne démarre l'aventure de l'encyclopédie.
Et donc on comprend bien que contrairement à Rousseau, il n'est pas un autodidacte, Stéphane Pujol, et on peut dire que ce sont d'abord ses traductions de l'anglais, vous nous disiez qu'il était traducteur, qui lui permettent d'acquérir une certaine renommée.
Oui, tout à fait. Il va avoir très vite. Il va connaître un cercle d'amis. Il va se familiariser avec les figures littéraires de l'époque. Mais il se fait connaître comme traducteur. Il traduit une histoire de la Grèce d'un anglais. Il va traduire un dictionnaire de médecine d'un autre anglais. Il va traduire aussi. Alors c'est sa première œuvre d'une certaine manière, puisqu'il s'agit bien plus que d'une traduction. Il s'agit d'une traduction annotée et en fait remaniée, amendée, et dans une perspective qui n'est pas tout à fait celle de Shaftesbury. Donc l'essai sur le mérite et la vertu de Shaftesbury en 1745, ça va être sa première œuvre, et ça lui permet de survivre, mais ça aussi ça le structure, hein, et lui permet de se familiariser avec la pensée et les textes philosophiques contemporains et étrangers. D'ailleurs, c'est un des auteurs français qui est l'un de ceux qui est le plus familiarisé avec la pensée anglaise, notamment.
Et alors, comment en vient-il, Marianne Albertan Coppola, à se lancer dans le grand chantier de l'encyclopédie aux côtés de D'Alembert et d'autres au milieu du XVIIIe siècle ?
Donc on est bien évidemment dans la période des Lumières, qui mettent en avant la raison et qui visent pour le public qu'ils espèrent le plus large possible, même si bien évidemment à cette époque, tout le monde ne pourra pas se procurer les volumes de l'encyclopédie ou les consulter dans une bibliothèque particulière, mais ils visent le partage de la raison et le passage d'une forme d'hétéronomie intellectuelle à une forme d'autonomie intellectuelle, savoir penser par soi-même. Et pour savoir penser par soi-même, il est nécessaire de pouvoir s'appuyer sur des connaissances fiables dans tous les domaines, puisque l'encyclopédie va s'intéresser à des domaines aussi divers et variés que la charpenterie, la musique, la littérature, le droit, la grammaire, etc. Bien évidemment, pour mettre en place ce projet pharaonique, il sera accompagné de D'Alembert, mais on peut penser bien évidemment au chevalier de Jaucourt qui va écrire quantité d'articles et d'autres contributeurs plus ponctuels. On peut penser évidemment à d'autres philosophes des Lumières comme Voltaire et Rousseau. Et certes, cette entreprise est colossale, original, mais ils peuvent quand même s'appuyer sur Chambers, qui a déjà été publié au siècle précédent, et sur d'autres dictionnaires. Donc il existe une base à cette encyclopédie pour pouvoir partager la raison, donc une partie qui va être plus entièrement descriptive, même si dans les articles, lorsqu'on va les étudier, on peut retrouver des messages plus ou moins cachés. Et bien évidemment, ces messages ne vont pas être placés directement dans les articles concernés, par
Eh bien
exemple.
Non, car il y a la censure, Marianne Albertin Coppola, et on voit bien qu'un certain nombre d'articles de l'encyclopédie provoquent la colère du pouvoir.
Catastrophe. Le cardinal vient d'arriver. Nous avons arrêté l'imprimerie à cause du bruit et le baron ne peut pas finir son article sur la morale.
Bien. Tu fais immédiatement redémarrer les presses.
Mais le bruit.
Pour couvrir le vacarme, tu joueras de l'orgue.
Je ne connais que le clavecin.
Tu joueras de l'orgue. Et moi, je bâclerai cet article. File.
Je croyais l'encyclopédie interdite.
Chut.
Et arrêtée.
Voilà, extrait du film de Gabriel Aguillon, Le Libertin, dans lequel on entendait Denis Diderot incarné par Vincent Pérez. Malgré la censure et les interdictions successives, l'encyclopédie va assurer à Diderot des revenus plutôt confortables, Stéphane Pujol ?
Oui, peut-être faut-il, pour compléter ce que disait ma collègue, rappeler, puisqu'on est dans une émission sur l'économie, que l'encyclopédie de Diderot Lambert, c'est une initiative de quelqu'un qui va devenir un des plus gros imprimeurs libreurs, hein, puisque la fonction n'est pas dissociée au XVIIIe siècle. Cette dynastie qui vont se construire avec le XVIIIe siècle, le libraire Le Breton, il y aura plus tard Panckoucke, et donc c'est les enjeux économiques de l'encyclopédie sont absolument considérables. Il y a eu un historien américain bien connu qui s'appelle Robert Danton qui a écrit un livre sur l'aventure de l'encyclopédie qui montre hein, les concurrences, les contrebandes, les contrefaçons, les pillages. Il s'agit de concurrencer, du point de vue français, il s'agit de concurrencer les Anglais qui ont fait un premier dictionnaire. Donc l'État, dans une certaine manière, est favorable à cette entreprise. Évidemment, il l'imagine pas tout à fait le tour philosophique que va prendre l'ouvrage, ce que rappelait ma collègue, mais si l'encyclopédie, néanmoins, malgré la censure, malgré les arrêtés du Conseil d'État, malgré la vindicte, les critiques qu'elle essuie, et plus que ça, puisque donc des interdictions de la part des autorités religieuses et civiles, si l'encyclopédie continue, c'est bien sûr du fait de la bienveillance d'un ministre, ce qu'on appelait le ministre de la librairie, l'équivalent, si vous voulez, du ministère de la Culture aujourd'hui, qui est Malesherbes, mais aussi parce que c'est une entreprise économique qui brasse énormément d'argent et le pouvoir est tout à fait conscient de ses enjeux et il est donc quand même assez impensable que l'on abandonne comme ça ce projet aussi important et bien sûr. Sans parler évidemment de la dimension intellectuelle, puisque c'est le grand chantier des Lumières.
Hein, mais en raison de l'encyclopédie, Diderot va tout de même être arrêté en 1749. Il passera un mois enfermé au donjon de Vincennes. Conséquence, il se montrera par la suite beaucoup plus prudent dans la publication de ses œuvres, Marianne Albertin Coppola.
Alors oui, il y a une forme de prudence par la suite, mais pour autant, on ne pourrait pas dire que les écrits de Diderot vont baisser en intensité dans la critique, puisque à celui qui sait lire, cette critique est toujours très présente, très féroce et exprimée avec énormément de brio et de talent.
Oui, mais de son vivant, je crois, Stéphane Pujol, que le grand public n'aura accès qu'à l'encyclopédie et à ses œuvres de théâtre et pas à ses romans, ses essais, toute une large partie de son œuvre auquel le public aura accès seulement un siècle plus tard.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour préciser, c'est son emprisonnement au donjon de Vincennes, il le doit à un texte philosophique, un des premiers textes de philosophie matérialiste, hein, au sens philosophique du terme, la lettre sur les aveugles, en 1749, en effet. Mais c'est pas encore à cause de l'encyclopédie. Il a pas été emprisonné à cause de l'encyclopédie. L'entreprise a été interdite, mais lui-même, bon, même s'il a été menacé indirectement, il a pas subi cet affront, hein, qui l'a marqué pendant, il a été emprisonné, 6 mois, il a été très très marqué par cette épreuve. Donc il va effectivement se promettre et promettre au censeur, à l'État en quelque sorte, de ne plus rien publier qui soit qui contrevienne à l'ordre moral et aux autorités religieuses. Et il va tenir sa promesse. Et vous avez parfaitement raison. En fait, l'œuvre de Diderot est quasiment finalement, enfin, est extrêmement méconnue de ses contemporains. Vous avez effectivement signalé, bien sûr, il est directeur de l'encyclopédie, il est l'auteur, il est connu en fait pour en effet son théâtre. C'est un grand réformateur du théâtre. Il va écrire 2 pièces de théâtre et il va faire la théorie d'un nouveau genre entre la comédie et la tragédie qu'on appelle ou bien le drame sérieux, le drame bourgeois. Et c'est ce Diderot-là qu'on connaît avec d'autres textes évidemment, mais pour l'essentiel, le Diderot des grands textes, qu'il s'agisse des textes de fiction ou des textes à caractère plus philosophique, on ne les connaît pas, on ne les lit pas, ou alors un tout petit nombre, parce qu'en réalité, il a été lu par le biais d'un périodique manuscrit, un journal manuscrit qui était envoyé en copie à quelques grandes cours princières, quelques cours d'Europe, et donc il a pu circuler évidemment des copies à partir de là, et donc quelques happy few ont lu les textes de Diderot, mais en France, en réalité, très peu de monde. Et le Diderot qu'on connaît aujourd'hui, il commence à peine à être découvert au 19e siècle, voire au 20e siècle pour certains textes.
Comme par exemple le neveu de Rameau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Stéphane Pujol, qui est ce personnage du neveu avec qui Diderot dialogue dans cet essai et ce qu'il incarne?
Alors, écoutez, j'ai envie de dire pour donner une comparaison avec notre monde moderne, c'est un homeless, c'est un sans-abri ou enfin en tout cas quelqu'un qui a des jours extrêmement difficiles. Il passe de la table de financiers ou bien de riches mécènes à la paille et au grenier d'écuries de la ville dans Paris.
Donc, c'est un parasite.
C'est un musicien aussi. C'est un homme de talent, hein. C'est pas simplement un pauvre diable. C'est un pauvre diable, mais c'est aussi un musicien et qui est finalement, je dirais que tout ce qui fait peut-être l'énergie de ce personnage, outre sa faconde, sa verve, sa drôlerie et puis son cynisme positif ou négatif, c'est le fait que il a une sorte de sentiment de déclassement ou bien de ne pas avoir réussi. Alors il l'avoue lui-même, il a pas fait ce qu'il fallait. C'est ce que lui reproche le philosophe dans le Neveu de Rameau, c'est-à-dire Diderot. Il lui dit mais tu vous n'avez rien fait, hein, pour devenir un quelqu'un d'important, du point de vue intellectuel ou musical, ou en tout cas pas grand-chose. Il n'empêche, il sait qu'il a du talent, il a même un certain génie, y compris un génie pour la pantomime, un génie pour une forme de théâtre, mais il a un sentiment extrêmement fort de déclassement et donc un besoin de reconnaissance qui le fait s'exprimer de cette manière et vouloir finalement embobiner le philosophe tout en l'amenant vers des sujets qui sont en fait au cœur de la réflexion de Diderot, de la réflexion philosophique et morale de Diderot.
Eh bien, écoutons justement un extrait du Neveu de Rameau de Diderot, dans lequel ce dernier, le neveu, évoque l'éducation de son fils. De l'or, l'or est tout. Et le reste, sans or, n'est rien. Aussi, au lieu de lui farcir la tête de belles maximes qu'il faudrait qu'il oubliât sous peine de n'être qu'un gueux, lorsque je possède un louis, ce qui ne m'arrive pas souvent, je me plante devant louis. Je tire le louis de ma poche, je le lui montre avec admiration. J'élève les yeux au ciel, je baise le Louis devant lui. Et pour lui faire entendre mieux encore l'importance de la pièce sacrée, je lui bégaye de la voix, je lui désigne du doigt tout ce qu'on en peut acquérir. Un beau fourreau, un beau toquet, un bon biscuit. Ensuite, je mets le Louis dans ma poche. Je me promène avec fierté. Je relève la basque de ma veste. Je frappe de la main sur mon gousset. Et c'est ainsi que je lui fais concevoir que c'est du Louis qui est là que naît l'assurance qu'il me voit. Stéphane Pujol, comment est-ce qu'il faut interpréter ce texte selon vous ?
Alors, il y a plusieurs manières de le lire. La plus simple, c'est de se laisser prendre par la contagion comique, mais aussi critique, qui est évidente puisque c'est une sorte une parodie d'un discours biblique, on pourrait dire, ou d'un discours religieux, puisqu'il il élève le au ciel l'or, comme la pièce d'or, comme l'hostie à l'Église. Mais il dit évidemment des choses très profondes. On voit bien ce qui montre ce texte, c'est que l'or fonctionne comme un objet fétiche, et on pense à Marx qui parlera dans les premières pages du Capital du fétichisme de la monnaie. Hein. Il y a vraiment cette conscience-là. Rameau sait qu'il y a dans la société une quantitative massive d'argent qui est souvent dilapidée. Alors, le côté drôle, c'est que loin de dénoncer cette opulence, il déplore le fait qu'il n'ait pas sa part, il déplore aussi l'absence de redistribution, hein, d'une certaine manière. Et ce que montre aussi ce texte plus largement, c'est que ce fétichisme de l'or, il tient à une équivalence qui est posée et que la société marchande du XVIIIe siècle a posée entre l'argent et le bonheur. On croit encore. Souvent que l'argent fait le bonheur, et donc l'amour de l'argent apparaît comme la figure historique de la recherche naturelle du bonheur dans une société dans laquelle on peut acheter évidemment tous les plaisirs, les places, les réputations.
Et donc finalement, Marianne Albertan Coppola, on peut dire que ce neveu de Rameau, c'est à la fois la victime et le complice de ce système qui fabrique des exclus, ce système inégalitaire qui existe au XVIIIe siècle.
Je pense qu'au-delà de la dualité entre complice ou victime, il en est un observateur qui sait se mettre hors jeu. C'est un marginal, le neveu. Il n'a pas réussi, mais comme le disait mon collègue, c'est parce qu'il ne s'en est pas donné la peine. Il a très bien compris les règles. Parfois, il décide de les appliquer, ces règles, comme dans ce passage central auquel on se réfère constamment, mais souvent, il décide de se mettre lui-même hors jeu, comme lorsqu'il ne sait pas tenir sa langue et qu'il va perdre sa place de favori chez les Bertins. Et par conséquent, oui. Il est complice de ce système parce qu'il va le perpétuer. Il ne va pas hésiter à contrevenir aux règles de la morale, donc des règles d'une morale qui est celle du philosophe en grande partie. Et lui se situe dans une position plutôt amorale. Il ne reconnaît pas la morale du moment qu'elle l'empêche d'accéder au bonheur. Et ce bonheur, il est conçu comme l'accès à l'argent. L'argent qui peut être dépensé dans une utilisation égoïste et non pas pour le bien commun. Donc ce qui pose véritablement des enjeux religieux, moraux, sociaux et politiques autour de la question de l'argent.
Il est amoral en effet, ce neveu de Rameau, mais il justifie sa faible moralité, Stéphane Pujol, par la nécessité vitale de se nourrir.
Oui, alors il y a effectivement, ça c'est aussi quelque chose de tout à fait passionnant. Il y a chez lui une angoisse qui est celle de ne pas manger. C'est quelqu'un qui a il y a une saturation dans le texte de l'image de la bouche béante, du ventre vide, et donc effectivement, et c'est C'est quelqu'un qui exprime une grande souffrance aussi. Vous me demandiez à l'instant comment le définir. Il faudrait peut-être, c'est une figure d'ailleurs, c'est une figure canonique de la littérature, qui renvoie à l'Antiquité. C'est un parasite. Mais puisqu'on est dans une émission qui parle d'économie, je dirais que c'est un parasite aussi dans un sens pas seulement social, mais aussi économique, dans le sens que nous donnons habituellement à ce mot, un profiteur, un passager clandestin, un free rider, comme disent les anglo-saxons, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui va profiter, hein, qui va être dans le système et qui va en profiter. Et bien sûr, ça ne marche pas toujours. Et quand il est exclu de la table des Bertins, parce qu'il a dit un mot de trop, alors là, les choses deviennent compliquées et il vide son sac auprès du philosophe.
Mais c'est aussi quelqu'un qui refuse le système, ou en tout cas au moins le système de la production, de la distribution, de l'échange, de la consommation des biens et services, parce que c'est un oisif, on peut l'appeler comme ça. Il refuse de participer à l'économie, à Stéphane Pujol.
Alors, il n'est pas dans une démarche. Enfin, il y a une sorte de forme de littéralement, on pourrait appeler ça de l'éloge paradoxal. C'est-à-dire que en faisant l'éloge de ce monde des riches parasites, parce qu'il y a les parasites pauvres et puis il y a les parasites riches, c'est aussi ça le sens du texte. Hein, c'est-à-dire que le parasitisme, il est des deux côtés. Hein, et les banquiers, hein, les banquiers sont, c'est très très clair dans le texte. Hein, les banquiers sont aussi des parasites. Donc il est dans cette, mais il va faire l'éloge, mais un éloge bien sûr dans l'exagération, et puisqu'il dit des choses au fond très méchantes sur ces gens-là et sur le, il fait une analyse très clinique de ce système d'échange. Il y a un passage tout à fait extraordinaire sur le vol qui met au centre du texte une notion qui est celle de la restitution. Alors on pourrait l'interpréter dans une perspective anarchiste, mais en fait il montre bien que il utilise un proverbe, hein, si un voleur vole l'autre, le diable s'en rit. En fait, il montre ce système d'échange, ce système de c'est une sorte de théorie à la fois radicale, à la fois libérale et solidaire des échanges sociaux et de leur perversion à travers cette question de la restitution, c'est-à-dire je prends, on m'a pris, je prends et on va me prendre à nouveau, et il est très très conscient que si jamais un jour il devient riche, on le piquera à nouveau, on le volera à nouveau. C'est très drôle.
Donc le vol comme moyen, en quelque sorte, de rétablir une forme d'égalité. Dans quelles circonstances est-ce que le neveu de Rameau sera finalement découvert à la fin du 19e siècle, Stéphane Pujol?
Alors c'est un vrai roman bibliographique, hein. C'est absolument extraordinaire. Il faudrait presque une émission entière pour le raconter. Donc je vais essayer d'être très court. En fait, le texte, on a, vous savez, il y a des copies. Le texte a absolument été. Diderot n'en parle jamais, nulle part, pas même dans sa correspondance privée. Donc personne, semble-t-il, ne connaissait l'existence de ce texte de son vivant. Il en laisse plusieurs copies. Une qui part à Saint-Pétersbourg au moment où Catherine II rachète sa bibliothèque avec l'ensemble de ses manuscrits. Il en garde une pour sa fille. Une pour Néjon, pour son secrétaire et ami. Mais le texte va être découvert, sans doute a-t-il été volé à Saint-Pétersbourg, ou une copie. Enfin, il arrive dans les mains de Goethe, qui va en faire, en proposer une traduction. Et donc le texte sera connu d'abord des lecteurs allemands ou germanophones, qui vont le lire dans la traduction de Goethe, une belle traduction comme vous pouvez l'imaginer. Et en fait, il va être traduit de l'allemand au français de manière extrêmement infidèle et beaucoup moins brillante par un faussaire, mm-hmm, qui va le vendre comme le texte original, ce qui sera absolument pas le cas. Donc vous voyez un texte traduit du français à l'allemand, puis de l'allemand au français. Et en fait, pour faire bref, parce que
c'est une véritable épopée que l'histoire de ce livre.
En fait, c'est un homme de théâtre, qui en fouinant chez les bouquinistes parisiens, Georges Monval pour le nommer, qui va au XXe siècle, qui va prendre un volume de pièces de théâtre et dans lequel se trouve le manuscrit tenez-vous bien, autographe, c'est-à-dire signé de la main de Diderot, dont on ignorait absolument l'existence. Et voilà. Et ce manuscrit aujourd'hui est à la bibliothèque Morgan Library à New York. Mais c'est la première fois qu'on va pouvoir avoir un texte fiable. Alors il y a eu des textes auparavant qui étaient proches, hein, mais disons que avant la découverte de ce manuscrit, on peut dire que le neveu de Rameau n'était pas le texte, si tant est que ça soit le texte définitif, enfin ça semble l'être, on ne le lisait pas ou à travers des versions tout à fait fautives.
Stéphane Pujol, Marianne Albertan Coppola, vous restez avec nous, on continue à parler de l'économie selon Diderot dans un instant. Concerto comique numéro 25 de Michel Corrette, compositeur du 18e siècle, sur France Culture, l'économie selon Diderot, c'est notre sujet aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Stéphane Pujol et Marianne Albertan Coppola sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Lefocq et mise en onde par Étienne Rouche. Alors on a évoqué le neveu de Rameau, découvert tardivement, mais c'est aussi dans Jacques le Fataliste que Diderot va aborder des questions économiques. Comment est-ce qu'on peut présenter cette œuvre, Jacques le Fataliste, qui est une œuvre absolument inclassable, Stéphane Pujol?
Oui, c'est une œuvre. Diderot, en général, fait des choses pas comme les autres. Mmh. Donc, quand il écrit des romans, il se singularise, même s'il y a un modèle anglais, là, bien sûr, c'est le modèle de Stern. Mais Diderot va écrire ce qu'on a parfois appelé un anti-roman. Je préférais parler de roman expérimental, même si, d'une certaine manière, toute une bonne partie des textes de fiction de Diderot pourraient réclamer ce titre. Donc, on ne sait pas bien ce qui lui prend, j'ai envie de dire, quand il se lance dans cette entreprise romanesque. C'est ce qui est, on peut remarquer, c'est qu'il s'agit d'un roman dialogué. Et vous savez que Diderot est l'homme par excellence, l'homme du dialogue. C'est quelqu'un qui a écrit énormément de dialogues à l'instar des dialogues philosophiques, mais pour en faire quelque chose de très 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 différent du modèle platonicien ou cicéronien. Il fait des dialogues extrêmement vivants qui sont finalement qui reflète l'esprit de la conversation à bâton rompu. Hein. Diderot est presque envie de dire un théoricien de la conversation. C'est pas exactement le mot, mais c'est quelqu'un qui va pratiquer, mais aussi réfléchir sur cette dimension fondamentale de la sociabilité, mais qui engage aussi une certaine manière de penser, parce que elle nous entraîne dans des chemins, dans des cheminements tout à fait inattendus, faits d'impasses, de retours en arrière, de croisements. Et d'une certaine manière, si on regarde la structure même de Jacques le Fataliste, elle est construite comme ça, c'est-à-dire que c'est un cheminement. Ce sont deux voyageurs, un maître et son domestique. Bien sûr, Diderot s'amuse puisque j'ai envie de dire, le plus futé, celui qui est l'esprit le plus philosophique, c'est
Jacques.
Disciple, c'est Jacques, même s'il annonce un petit peu la pensée de son maître spirituel qui est Spinoza, la pensée du déterminisme, la pensée, l'idée qu'on est des êtres déterminés, on n'est pas libre.
Et là où
il va réciter son Spinoza, le récit est constamment interrompu, puisqu'en fait le prétexte c'est les amours de Jacques, et le récit est constamment interrompu par toutes sortes d'aventures, d'anecdotes, d'historiettes, certaines dont très connues, comme l'histoire de Madame de la Pommeraye.
À travers les déambulations de Jacques le fataliste et de son maître, ce que Diderot nous offre, ce sont des représentations des diverses formes que prend la pauvreté au XVIIIe siècle. Stéphane Pujol, c'est en cela que cette œuvre aborde des questions économiques?
Alors, oui, elle aborde des questions économiques. Je dirais que d'une manière générale, même si c'est pas toujours très très prégnant à première vue, Diderot s'intéresse à l'échange dans toutes ses dimensions, aux figures de l'échange. Et donc, qu'il s'agisse de l'échange de la communication intellectuelle et même verbale, des échanges économiques, des échanges sexuels, voire même des échanges d'identité. Il pouvait pas manquer évidemment de rencontrer des questions d'échange économique. Il y a une attention très 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 forte dans l'œuvre de Diderot aux petits gens. Il y a une formidable sensibilité chez lui. Il est un des rares. Vous savez, il y a une historienne qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La nature du peuple et qui s'appelle Deborah Cohen, qui dit qu'on ne voit pas le peuple, hein, que les hommes et les femmes fortunés du XVIIIe siècle ne voyaient littéralement pas les petits gens lorsqu'ils déambulaient ou lorsqu'ils voyageaient.
Et les écrivains non plus. C'est assez inédit dans la littérature de s'intéresser ainsi au peuple, Stéphane Pujol.
Absolument. Absolument, absolument. Diderot regarde et il est capable de décrire. Alors d'abord parce qu'il a le sens du réel, il a le goût du réel, il a le goût du détail réaliste. Mais il aime aussi, il aime la nature, le naturel, la spontanéité du peuple. Et c'est vrai qu'on rencontre à plusieurs reprises des figures populaires comme Gousse, par exemple, le personnage de Gousse dont Marianne Albertan peut-être pourra parler. Il y a aussi des scènes de charité. Enfin, c'est une question qui l'intéresse beaucoup, question de la charité.
Justement, la charité, voilà. Je voudrais vous entendre là-dessus, Marianne Albertan Coppola, puisque c'est un motif qui tient une place très importante dans Jacques le Fataliste. Alors, on parle de charité, mais peut-être de plus en plus de bienfaisance au XVIIIe siècle, peut-être d'une... C'est une façon de rejeter la dimension chrétienne de ce terme de charité.
Alors, tout à fait, on observe un passage d'une forme religieuse de charité à une forme plus étatique ou individuelle de charité. Et on voit l'apparition, en tout cas le passage dans la langue qui devient accepté du terme bienfaisance. Donc on peut bien évidemment décomposer en bien. Faisance, donc faire le bien. Et on cherche par là, en utilisant un nouveau vocable, à se débarrasser d'une dimension religieuse qui commence à poser problème au XVIIIe siècle. L'idée n'est non plus de faire le bien par crainte de Dieu, mais par l'amour de son prochain. Et donc les philosophes pour la plupart athées ou en tout cas détachés des formes traditionnelles de la religion, qui sont dans ce cas-là davantage déistes, cherchent véritablement à mettre en place une autre forme de charité et qui correspond à l'esprit général des Lumières. Pour autant, même si on a bien conscience de ce passage d'une forme de charité religieuse à une forme de charité débarrassée d'un contexte religieux, même si elle continue bien évidemment de se prolonger, les dames de charité, les œuvres de charité continuent à exister tout au long du XVIIIe siècle, malgré cela... Cette volonté de distinguer les deux formes, on peut remarquer que chez un même auteur, même chez Diderot, qui va être très attentif, puisqu'il Il va, par exemple, critiquer à deux reprises les curés qui vont, par exemple, dans les deux amis de Bourbonne, chercher à détourner les charités qu'une dame désire faire aux veuves de Félix et d'Olivier parce que ces familles ne respectent pas les préceptes religieux. Ils ne sont pas des bons pauvres, autrement dit. Même chez Diderot, comme je le disais, qui est un auteur attaché à ce changement structurel, on va retrouver sous sa plume charité et bienfaisance sans que cela corresponde nécessairement pour charité à la forme religieuse et bienfaisance à la forme débarrassée de tout caractère religieux.
Madame, les avez-vous revus ?
Qui ça ?
Et vos amis ?
Ah non !
Eh bien, ça n'est pas bien. Vous êtes riche, elles sont dans le besoin, ne pourriez-vous au moins quelquefois les inviter à souper ?
Je les ai invitées 10 fois sans avoir pu rien obtenir. Elles refusent de venir chez moi. La fréquentation de notre société n'est pas compatible avec leur simplicité. L'opulence invite au péché.
Il n'y a rien qu'on puisse faire pour les aider ?
Tel besoin de notre aide. La religion n'était pas un secours et un trésor. Ce sont elles qui s'inquiètent de notre sort et prient pour notre salut.
Madame, si je leur faisais parvenir 20 louis, croyez-vous qu'elles refuseraient ?
Oh, j'en suis sûre. Pourquoi accepteraient-elles de vous ce qu'elles me refusent ?
Mais quelle raison ont-elles de se refuser la bienveillance d'une amie ?
Marquis, nous sommes bien loin, nous autres gens du monde, de connaître les délicatesses scrupuleuses des âmes pieuses.
Mais enfin, il n'y a donc rien que je puisse faire pour les aider ?
Non, Marquis, vous ne pouvez rien.
Voilà qui est cruel.
Oui, cruel, c'est le mot.
Mademoiselle de Jonquière, le film d'Emmanuel Mouret de 2018 avec Cécile de France et Édouard Baird, inspiré d'une nouvelle de Jacques le Fataliste, consacrée à l'histoire de Madame de la Pommeraye. Que nous apprend cette nouvelle sur le rapport de Diderot à l'argent, Stéphane Pujol ?
C'est évidemment un passage tout à fait, c'est, comme vous l'avez rappelé, c'est tiré d'un petit roman dans le roman, d'une historiette, mais qui a une valeur emblématique et qui est l'histoire de Madame de la Pommeraye. Le film est tiré de ce passage. Et alors le rapport à l'argent ici, bien sûr, c'est la vision, mais avec encore une fois, il faut voir le degré d'ironie qui travaille ce texte. Et des deux côtés, d'ailleurs, dans les deux voix qu'on entend, il y a celui qui l'âme bonne, on va dire, la belle âme, et puis celle qui est plus réaliste, un peu plus cynique, qui considère que c'est pas de son ressort et que finalement on n'a pas à entrer dans ce système de la charité, mais le texte est aussi intéressant par sa structuration, c'est-à-dire que c'est un texte emboîté dans une histoire qui est racontée. Cette histoire est racontée par une aubergiste, et donc l'aubergiste aussi peut-être, la voix de l'aubergiste peut-être se fait entendre dans ces formulations. Elle qui fréquente le petit peuple et toutes les conditions sociales. Mais c'est d'abord un texte qui est qui raconte l'histoire d'une
passion. C'est la vengeance d'une femme.
Voilà, c'est la vengeance d'une femme, et ça c'est un thème. Alors là, pour le coup, on n'est pas, même si cette question-là revient souvent et souvent d'ailleurs, enfin parfois pas toujours, mais parfois aussi articulée à des questions économiques. Dans certains contes de Diderot, il y a ce croisement entre une perspective, celle de la, finalement, d'une femme qui va tout perdre, mais qui peut aussi parfois, c'est pas le cas de Madame de la Pommeraye, mais qui peut aussi perdre toutes ses ressources parce que l'homme avec qui elle était l'a dépossédée, ou bien donc c'est l'histoire d'une passion féminine et d'un personnage énergique comme Diderot les aime, qui va par excès de, je dirais, de rigueur et de sévérité dans sa condamnation et dans sa passion dépitée, qui va
pousser très loin sa vengeance, mais ne divulguons pas la fin du roman et du film, qui est un très très bon film. Par ailleurs, je voudrais qu'on en vienne, Stéphane Pujol, Marianne Albertan Coppola, au rapport de Diderot Diderot à la pensée économique de son temps, puisque Diderot n'est pas un penseur de l'économie comme Rousseau peut l'être, par exemple, mais il a tout de même été proche de la pensée des physiocrates, ces penseurs qui estiment que la valeur doit d'abord provenir de l'agriculture, mais il s'en est ensuite éloigné. Pourquoi cela, Stéphane Pujol ?
Alors effectivement, Diderot, lorsque le mouvement physiocratique commence à se faire entendre, Diderot est sensible aux thèses des physiocrates. Alors il y a c'est une pensée complexe et très riche. Hein, un des aspects c'est le fait que la vraie richesse on doit la tirer de la terre, hein, donc de l'agriculture, et que le commerce, l'industrie sont secondaires et parfois même une entrave au développement économique et à la prospérité d'un pays. Donc Diderot est assez sensible à cette thèse-là, et puis bon, il va y avoir sa pensée va évoluer, et puis la fréquentation de l'abbé Galiani, qui va écrire un dialogue sur le commerce des blés, qui va se montrer très critique à l'égard des thèses physiocratiques, et puis aussi l'histoire réelle, c'est-à-dire la vie économique du XVIIIe siècle, puisque à chaque fois ou presque que les thèses physiocratiques auront été appliquées dans les faits par effectivement la libéralisation du commerce des grains notamment qui avait pour but l'idée était vertueuse, il s'agissait d'encourager la concurrence, de briser les monopoles et donc peut-être de faire baisser les prix.
Sauf que les conséquences s'avèrent assez désastreuses sur la population.
Voilà. Et Diderot donc va finalement lorsqu'il va prendre la défense de l'abbé Galiani, va manifester une pensée anti-physiocratique, mais avec une originalité tout à fait intéressante qui s'appuie notamment sur certains principes de la pensée républicaine, enfin du nouveau républicanisme, du républicanisme du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que la protection de la liberté individuelle elle peut se retourner contre ses auteurs, et il s'accorde sur le fait que le droit de propriété, de liberté de commercer se nourrissent de passions destructrices du lien social.
Alors c'est intéressant, puisque on n'a pas le temps d'aborder la question du supplément au voyage de Bougainville, hein, dans lequel Diderot va aussi critiquer l'exploitation économique que constitue le colonialisme, hein, avec la création de cette société utopique, cette utopie tahitienne dans laquelle il n'y a ni riche ni pauvre, puisque la propriété n'existe pas. Mais voilà, je voulais simplement l'évoquer et dire aussi que Diderot s'en prend également au luxe dans son œuvre. Il va développer l'idée selon laquelle il existe un bon et un mauvais usage du luxe. Écoutez ce qu'il écrit dans sa satire à la manière de Perse. Au moment où une poignée de concussionnaires publics regorgèrent de richesses, habitèrent des palais, firent parade de leur honteuse opulence, toutes les conditions furent confondues. Il s'éleva une émulation funeste, une lutte insensée et cruelle entre tous les ordres de la société. L'éléphant se gonfla pour accroître sa taille. Le bœuf imita l'éléphant. La grenouille eut la même manie qui remonta d'elle à l'éléphant. Et dans ce mouvement réciproque, les trois animaux périrent. Triste, mais image réelle d'une nation abandonnée à un luxe, symbole de la richesse des uns et masque de la misère générale du reste. Si vous n'avez pas une âme de bronze, dites donc avec moi. Dites « Maudit soit le premier qui rendit les fonctions publiques vénales. Maudit soit celui qui rendit l'or l'idole de la nation. Maudit soit celui qui engendra ce foyer d'où sortir cette ostentation insolente de richesse dans les uns et cette hypocrisie épidémique de fortune dans les autres. Maudit soit celui qui condamna par contre-coup le mérite à l'obscurité et qui dévoie la vertu et les mœurs au mépris. » De ce jour, voici le mot funeste qui retentit d'un bout à l'autre de la société. Soyons ou paraissons riches. De ce jour, la montre d'or pendit aux côtés de l'ouvrière à qui son travail suffisait à peine pour avoir du pain. « La satire, à la manière de Perse, c'est un dialogue qui vise à dénoncer la soif immodérée de l'or et à interroger le développement des inégalités dans la société, Marianne Albertan Coppola.
Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas uniquement dans cet ouvrage que se pose la question centrale du luxe, qui n'est pas seulement une préoccupation de Diderot, loin de là.
C'est une grande controverse au XVIIIe siècle.
Oui, tout à fait. On connaît plus... On connaît mieux, par exemple, le poème « Le Mondain » de Voltaire. Voltaire, très fervent partisan du luxe. La position de Diderot est plus nuancée. Mais dans tous les cas, lui qui a connu des difficultés financières, qui, comme on l'a dit au début de l'émission, a une connaissance des différents petits métiers qui composent le tiers-état, ne peut pas rester insensible à la misère générale. Il y a encore, même si les épisodes de famine sont finis à son époque, il y a encore fréquemment des épisodes de disette et les paysans, comme c'est montré par exemple dans Jacques le Fataliste, se retrouvent alors sans rien et à devoir essayer de joindre les deux bouts. Et face à cela, le luxe ne peut pas entièrement se justifier, bien évidemment.
Et donc, puisque l'argent est corrupteur, chez Diderot, le philosophe cherche à créer un nouveau rapport à la richesse, un rapport plus moral, Marianne Albertan Coppola.
Alors, il n'a pas, on a évoqué très brièvement le supplément au voyage de Bougainville, il n'a pas l'illusion de pouvoir se faire tahitien à Paris, puisque... comme on le voit dans cette utopie, le mieux en ce qui concerne l'argent, c'est qu'il ne circule pas du tout et qu'on soit dans une société où le partage des richesses, qu'elle soit au niveau des enfants, puisque pour les Tahitiens, c'est une forme de richesse, ou qu'elle soit au niveau des biens nécessaires pour la vie, on soit dans un partage sans que se pose de questions. Mais nous ne sommes pas dans cette société tahitienne et Diderot essaye donc de vivre dans sa société telle qu'elle existe. Il n'est pas dogmatique dans ses ouvrages, il n'impose pas de théorie à ses lecteurs, mais effectivement, on peut voir que il va dénoncer l'importance démesurée qui est accordée à l'argent, cet argent qui apparaît davantage comme une fin que comme un outil. Et lui, il plaide plutôt pour une circulation spontanée et rapide de l'argent qui sert uniquement à nos besoins plutôt qu'une forme de thésaurisation.
Oui, Diderot qui se montre très critique vis-à-vis des milieux d'affaires, vis-à-vis du fait aussi que l'argent devient la valeur montante de la bourgeoisie. Il a peur lui-même d'être corrompu par l'argent. Et je voudrais conclure là-dessus, Stéphane Pujol, puisque Diderot a fini sa vie dans un véritable confort matériel, on peut le dire comme ça.
Oui, en effet, on évoquait l'aide substantielle, le soutien de Catherine II. Il se manifeste très tôt, dès 63, Catherine II propose à Diderot de l'aider. Elle va lui verser une rente de 1000 livres. Et puis finalement, elle va, à partir de 1765, donc relativement assez tôt, lorsque Diderot finalement aura presque terminé avec les, en tout cas avec les volumes de texte de l'encyclopédie, elle va avancer 50 années de cette rente, et donc il va là se voir doté d'une rente tout à fait estimable, et ça devient un peu la figure d'un honnête bourgeois. Il s'en moque lui-même dans plusieurs textes,
et notamment dans les regrets sur ma vieille robe de chambre que j'évoquais au tout début de cette émission. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la thématique de Diderot et l'argent. Mais l'avantage, c'est que les auditeurs que cela intéresse peuvent se tourner vers le numéro de recherche sur Diderot et sur l'encyclopédie, la revue, numéro consacré à Diderot et l'argent. Un grand merci Stéphane Pujolet et Marianne Albertan Coppola de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à Cécile Finet, à France Bleu Occitanie. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment, votre chronique du vendredi présentée par la sociologue Dominique Méda.
Quelle programmation des emplois et des compétences dans la transition écologique ? Pour anticiper correctement les vastes mouvements de main-d'œuvre provoqués par la transition écologique, il est essentiel de disposer d'une sorte de plan permettant de visualiser les emplois menacés, les nouveaux emplois et une sorte de matrice des transferts. Nous en sommes loin. En 2018, une lettre signée par 4 ministres confiait à Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, le pilotage de la mission d'élaboration du plan de programmation des emplois et des compétences. La lettre de mission rappelait que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, je cite, « engage l'État à élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales, un plan de programmation des emplois et des compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie ». Fin de citation. Ce plan indique les besoins d'évolution en matière d'emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique. Ce plan de programmation des emplois et des compétences devait être publié en 2018. La mission dirigée par Laurence Parisot rendra son rapport en février 2019. Il concerne 3 secteurs, l'énergie, le bâtiment et les transports. Il s'agit d'un rapport très intéressant qui n'a malheureusement pas eu de suite. Dans un premier moment, le rapport cherche à circonscrire le périmètre des emplois de la transition énergétique et à évaluer leur nombre. Différentes estimations au périmètre non concordant sont présentées, de même que l'ensemble des estimations de création ou de destruction d'emplois estimées par les modèles existants. Le rapport rappelle qu'il n'existe pas en France de modélisation macroéconomique capable de prendre en compte la dimension compétence d'un marché de l'emploi, alors qu'en Norvège, par exemple, des modèles permettent de faire des simulations en fonction de 4 niveaux d'éducation et d'estimer la demande de travail par industrie croisée par niveau d'éducation. L'un des points importants du rapport est que la transition énergétique crée peu de métiers radicalement nouveaux, mais qu'elle conduira à une évolution du contenu de nombreux métiers existants, ainsi qu'à de nouvelles façons de travailler. 4 catégories de métiers sont en train d'évoluer profondément. Le conseiller énergie, l'économe de flux, l'agrégateur et l'ingénieur en génie des matériaux. Mais à côté de ces nouveaux métiers, l'ampleur des évolutions de compétences dans les métiers existants sera, selon le rapport, spectaculaire. 4 dimensions nouvelles seront notamment essentielles dans toutes les entreprises. La sensibilisation des administrations, des entreprises et de leurs salariés à la transition énergétique. Le développement des pratiques d'éco-conception et l'attention portée au cycle du produit. La mise en commun et la coordination des compétences. Et la convergence transition énergétique, transition numérique. Le rapport s'attarde ensuite sur la question essentielle des transferts de compétences. Rappelant qu'il y aura des destructions et des créations d'emplois, le rapport insiste sur le fait que ces processus ne seront pas nécessairement simultanés et que les ajustements ne se feront évidemment pas de manière automatique. Des outils tels que les CV de site devront être pleinement mobilisés. Cet outil permet d'évaluer les compétences d'un collectif de travail, d'un site de production, d'un bassin d'emploi pour les valoriser auprès d'autres partenaires et organiser la reconversion professionnelle. Le rapport entre ensuite dans le détail des emplois à reconvertir dans les 3 secteurs. Il rappelle notamment que le marché de la rénovation est loin d'être un marché mature, que tous les corps de métiers du bâtiment doivent intégrer de nouveaux savoir-faire et que de nouveaux métiers tels que celui de conseiller énergétique devraient se développer comme en Allemagne. Le constat aurait dû être poursuivi sur le reste des secteurs économiques et être suivi de mesures concrètes. Il ne semble pas que cela ait été le cas.
Niggas want me to get ratchet, niggas want me to attack it. Put the hood on, now they calling me Cassius. Mind you like Bob Saget, greedy I can't pass it. Eating everything, nigga, no fasting. I don't care how much you knew me in the past tense. I ain't no Julia Stiles, this ain't no last dance. Way past it, way. Fucking on my ex cause he validate me. Fucking up a check, I don't want no receipt. Mind get possessed, let my spirit speak freely. Hey. My past can't escape me, my pussy precedes me. Why my how the times change? I'm still playing the victim and you still playing the pick me. It's so embarrassing, all of the things.
On se quitte avec Blind, extrait du dernier album de la chanteuse américaine Azie, album intitulé SOS. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur l'économie des grands magasins qui ont su développer l'art de la mise en scène des marchandises. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.